Paul Joël Kamtchang est un journaliste camerounais spécialiste des questions de journalisme des données. L'actuel secrétaire exécutif est chargé des projets d'ADICI, l'Association pour le développement intégré et la solidarité interactive, et en première ligne pour la mise en place du gouvernement ouvert au Cameroun. Ce chercheur et acteur de la société civile est un travailleur chevronné sur les questions de l'accès à l'information, qui lutte avec acharnement contre la désinformation sur Internet. Il a accepté de répondre à mes questions. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la première saison de N.com, votre podcast du numérique et des médias, proposé par votre humble serviteur, René Nkoa. Avec Paul Joël Kamtchang, mon invité du jour, nous parcourrons les questions liées à la Civic Tech, à la web gouvernance, au data journalisme, à la lutte contre la désinformation et les discours haineux sur la toile. Paul Joël Kamtchang, bonjour.
Bonjour René.
Comment tu vas?
Assez bien, merci.
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast N.com.
Merci, c'est moi qui te dis merci pour cet honneur parce que j'imagine tout ce qu'on va pouvoir mettre à la disposition du public en termes de mine d'informations, de mine de savoir et de mine de connaissances.
Comment es-tu arrivé à t'intéresser aux questions de journalisme des données et de web gouvernance, qui sont des aspects de ce qu'on appelle les civic tech?
Pendant que j'étais à l'ESSIC, je suivais la plupart de mes stages plutôt en journalisme plutôt qu'en information documentaire. Ce qui fait que je suis resté dans la ligne du journalisme. Et après l'école, j'ai été recruté à TBC, qui est une FM à Yaoundé, où en quelques semaines, quelques mois, je suis devenu rédacteur en chef, plus directeur de l'information. Et j'étais donc à fond dans les questions de l'information qui sont en réalité mes domaines de prédilection. Et donc, par la suite, CFI a lancé un appel à candidature. J'ai postulé, j'ai été retenu. À la même année, je lançais ADICI, qui est l'association pour le développement intégré. Et donc, dans le cadre de CFI, je me suis spécialisé sur l'open data et le data journalisme. Parce qu'en réalité, ça va de pair. Il ne peut avoir normalement que du data journalisme, mais si en amont, il existe de l'open data. Et puis, je me suis, après CFI, j'ai suivi plusieurs stages, plusieurs formations, plusieurs séminaires à travers le monde. Et j'ai commencé à arpenter les couloirs de l'Open Government Partnership, qui est en réalité un grand regroupement mondial de tous les États, de toutes les organisations et de tous les activistes qui travaillent sur les questions de l'accès à l'information et de l'open data. C'est finalement où je me suis accroché depuis presque 10 ans, et ça fait vraiment ma passion. Et aujourd'hui, à la fois, j'essaie d'inculquer le peu que j'ai appris à l'extérieur gratuitement aux Camerounais, parce que j'estime que le Cameroun, qui s'est littéralement inscrit dans ce qu'on appelle une société de l'information, devrait davantage développer les automatismes et avoir des professionnels qui travaillent réellement à développer une société de l'information. Cela passe donc par des organisations de la société civile plus fortes et plus engagées. Cela passe également par des blogueurs, par des journalistes et des activistes qui travaillent pour l'ouverture des données.
Tu parlais de l'open data et du data journalisme. Alors, selon toi, quelle est la réalité de la pratique du data journalisme au Cameroun? Je veux dire au niveau de ses acteurs, des actions menées et surtout des résultats.
Alors, en réalité, ce que je vais vous apprendre et qui pourrait vous surprendre à la lumière de tout ce qui est fait ci et là, c'est que beaucoup de gens pratiquent de l'open data ou du data journalisme sans le savoir. Quand vous prenez l'essentiel de la presse économique du pays, par exemple, c'est beaucoup de données, c'est beaucoup d'informations statistiques, c'est beaucoup d'informations sur la base des données. Mais en réalité, tout ce qui manque à cela, c'est une réelle structuration pour que ça obéisse au principe du journalisme des données. Donc, ce qui signifie qu'à côté de cela, on devrait baser par exemple un storytelling qui s'appuie essentiellement sur des données collectées et analysées, et on devait déboucher par ce qu'on appelle de la data visualisation, qui permet d'avoir au moins plusieurs types d'unités d'informations sur le même support. Donc, comme je vous expliquais, il faut juste qu'on essaye, comme c'est le cas dans le cadre de l'éligibilité du Cameroun pour le gouvernement ouvert, d'essayer de rassembler tous ses acquis, de les renforcer et de voir comment aller dans le sens d'obéir aux principes et du data journalisme et de l'open data.
Tu as dit que beaucoup de personnes au Cameroun pratiquent du data journalisme sans le savoir. Mais est-ce que même si ces personnes ne sont pas forcément sensibilisées au fait qu'elles sont en train de faire du data journalisme, est-ce qu'on peut juger de l'action, bien du résultat de ces actions-là?
Oui, c'est un peu pour ça que je vous disais que maintenant, le tour, c'est de pouvoir consolider ces acquis et faire en sorte que ces acquis obéissent maintenant à un principe, celui du data journalisme, qui consiste justement à avoir en amont de l'open data, c'est-à-dire qu'on est des institutions, parce qu'en réalité, l'open data devrait être, c'est le devoir régalien des institutions républicaines, c'est-à-dire disposer d'une infrastructure technologique qui permette à la fois l'accessibilité et la disponibilité des données, qu'on inculque le jeu, la publication des jeux de données par exemple, pour permettre justement aux citoyens d'y accéder. Je vous apprendrai par exemple que l'Institut National de la Statistique du Cameroun a de la peine à pratiquer de l'open data, c'est-à-dire l'essentiel des informations ou des documents que vous retrouvez sur son site, c'est des documents PDF qui en réalité ne sont pas en format open data et donc ça ne facilite pas la réutilisation et l'usage des données qui y sont contenues. Et maintenant, il faudrait qu'on passe de la nature des données non structurées aux données structurées pour permettre justement une réutilisation sur la base des outils qui existent. Et quand on est maintenant en aval des professionnels qui soient formés par exemple à utiliser ces formats qui sont publiés, à avoir la machine, à avoir toute la technologie nécessaire pour pouvoir les exploiter et qu'on forme maintenant les journalistes, les professionnels de l'information pour être capables de savoir comment on lit une donnée, comment on nettoie une base de données, comment on scrape une donnée, comment est-ce qu'on l'analyse et comment est-ce qu'on construit une histoire autour d'une donnée, par exemple, qui a été récoltée et analysée. Voilà en réalité quelques principes ou alors quelques leviers sur lesquels on devrait s'appuyer. Et ce n'est pas qu'une affaire de journaliste, c'est une affaire de toutes les parties prenantes. Parce que jusqu'à présent, en réalité, quand vous essayez de voir, il n'y a que peut-être la Banque mondiale qui pratique de l'open data, le FMI, ces grosses structures internationales. Or, le Cameroun lui-même peine à avoir des données disponibles dans ces structures ou alors sur des sites web qui existent. Tenez-vous tranquille, quand le Cameroun va demander de l'argent au FMI par exemple, l'une des contraintes c'est d'avoir des données économiques mises à jour et la condition sine qua non c'est que ces données soient publiées sur le site du FMI. Or vous ne verrez jamais ces données à la fois sur le site du ministère des Finances, encore moins sur le site de la Direction Générale du Budget ou encore sur le site par exemple du ministère de l'Économie qui est chargé de tout ce qui est coopération économique.
Ta réponse me permet d'embrayer sur une question qui a un lien avec les statistiques au Cameroun. Vu qu'on est dans un pays où les chiffres sont toujours difficiles à obtenir, quand on parle de data journalisme, quels sont les leviers sous lesquels les journalistes qui décident de traiter les données peuvent agir pour pouvoir faire leur travail de manière efficiente?
Alors, le levier essentiel, premier et fondamental, devrait être l'infrastructure technologique construite à cet effet. C'est-à-dire pour la France que je connais bien, pour y avoir séjourné et avoir fait un voyage d'études sur le système de l'open data français, c'est que vous avez par exemple Etalab, qui est une structure interministérielle qui centralise les données qui viennent des différents ministères et qui les met à la disposition des citoyens. On aurait pu avoir cela au Cameroun. Par exemple, que le ministère de l'économie, qui gère beaucoup de données au quotidien, soit capable de mettre ces données à la disposition du citoyen. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue il y a à peine 2 jours. Quand on indiquait sur la base des données en notre possession qu'il y a congestion au port autonome de Douala, et le directeur de la communication nous a dit non, il n'y a pas congestion et il s'en est arrêté. On lui a dit non, tu dois produire les données qui nous permettent d'analyser et savoir que tu refutes les données qui sont à notre disposition. Et tenez-vous tranquille, la réponse qu'il nous a donnée, c'est on ne peut pas mettre les données d'une institution à la disposition. Ce qui constitue en réalité une erreur grave pour un responsable de la communication. Parce qu'en réalité, ce sont des données publiques qui doivent être ouvertes et être mises à la disposition du public. Ce qu'on demande déjà au moins à ces institutions, c'est d'avoir des sites web à jour. Qu'on n'y va pas pour retrouver une information qui date de 2 ans, 3 ans. Voyez-vous, quand vous partez voir le site de ITE Cameroun, par exemple, vous avez des informations ou des données qui sont vieilles de 3, 4 ans.
ITE Cameroun, c'est quoi déjà?
ITE, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives qui essaye justement de mettre à la disposition des citoyens tout ce qui est donné sur les ressources naturelles du pays. Et voyez-vous, la malchance ou alors malheureusement, ce qu'on a au Cameroun, c'est que l'essentiel des ressources naturelles du pays se retrouve dans l'arrière-pays, contrairement où se trouvent les grandes métropoles. Ce qui fait en sorte que les citoyens sont un peu éloignés de ces zones et n'y connaissent que dalle de tout ce qui se passe. Vous vous rappelez de l'histoire du préfet qui a dû jeter une journaliste qui était allée enquêter à Betareouya où on exploite de l'or. Tout ça constitue justement des entraves à l'accès à l'information qui n'aident pas le journaliste ou le citoyen à comprendre exactement comment des ressources sont gérées en son nom. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont l'émanation de ces citoyens et ces citoyens ont le droit de savoir ce qu'ils font en leur nom là-bas et ce qu'ils font pour eux. C'est pour ça que par exemple dans le cadre d'Adici, nous essayons de développer des partenariats au niveau local avec des communes pour les accompagner à ouvrir leurs données locales et à promouvoir l'accès à l'information locale. Ce sont en réalité des pratiques aussi bien au niveau local qu'au niveau national qui permettront justement de promouvoir les questions de l'accès à l'information et de l'open data en dépit du fait que nous réclamons toujours une loi cadre sur l'accès à l'information et sur les données ouvertes qui permettrait au moins, parce qu'en réalité ce que nous recherchons dans ces lois, c'est le volet contrainte qui devrait contraindre les producteurs de l'information, à les mettre à la disposition des citoyens et devraient aider les citoyens à ester en justice lorsqu'ils savent que leur droit d'accès à l'information a été bafoué. Mais pour l'instant au Cameroun, vous ne pouvez pas poursuivre une institution en justice parce qu'en réalité, il n'existe pas une loi qui vous permet de le faire. Même si on vous dira qu'il y a des lois éparses telles que le code minier qui a des dispositions, par exemple, qui indiquent simplement de mettre les informations dans le secteur minier à la disposition des citoyens. Mais il n'existe pas une infrastructure technologique qui permet justement de promouvoir ces données. Ou encore le dernier texte en droite qui est celui qui est, je crois, c'est le décret de juillet 2019 qui porte sur la gouvernance et la transparence, qui parle des questions d'accès à l'information, mais de façon à envoler sans aucune disposition sur les contraintes. Et puis, l'absence peut-être d'un ombudsman, ce qu'on appelle régulièrement le médiateur de la République, ne facilite pas aussi les choses. Parce qu'en réalité, dans le cadre de la décentralisation, les derniers textes sur le code de la décentralisation, par exemple, qui permet aux régions anglophones d'avoir enfin un ombudsman, là-bas au moins ils peuvent se plaindre chez l'ombudsman, mais dans la partie francophone, c'est pas le cas. Jusqu'à présent, vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous n'avez pas eu accès à l'information. Et donc, la seule référence du journaliste, du citoyen devient le journal ou les médias qui, de plus en plus, ont des sérieux problèmes de crédibilité en termes de contenu de leur information. Et donc, le citoyen se sent comme perdu, n'a pas accès à l'information. Le journal auquel il devrait avoir accès à l'information, il doit débourser 400 francs, alors que le principe de l'accès à l'information, c'est justement non seulement l'accès libre, mais l'accès gratuit. Donc, c'est autant d'éléments qui ne facilitent pas ou alors qui ne permettent pas aux citoyens d'accéder à l'information.
Merci pour cette réponse très étayée. On va passer maintenant à la web gouvernance. Comment la définirais-tu?
La web gouvernance, je pourrais la définir comme étant cette facilité de disposer de la technologie nécessaire pour gouverner. Ailleurs, on parle de la civic tech qui permet justement au gouvernement d'utiliser Internet pour gouverner. Utiliser Internet signifie déjà rendre Internet accessible à tous les citoyens. C'est vrai que vous me direz que le taux de pénétration en 2020 qui est de 40% selon les données du 16 février 2021 sont déjà assez encourageants, c'est pas mal. Mais on reste quand même également au niveau de la qualité de cet Internet qui n'est pas tout à fait fluide quand vous voyez toutes les plaintes qu'il y a autour d'Internet. On reste aussi au niveau des sites web des institutions qui ne sont pas entretenus. Je vais vous surprendre en vous disant que le ministère de la Communication a lancé le site web peut-être 3 fois et ça a disparu. Au moins, on pourrait avoir les informations gouvernementales. Il n'y a pas la primature. Quand vous allez sur le site web de la primature, qu'est-ce que vous voyez? Juste quelques décrets, quelques arrêtés et puis quelques photos des ministres qui sont en poste. Donc, en réalité, c'est C'est presque paradoxal quand vous avez dans un pays comme le Cameroun qui a tout un plan du développement du numérique qui est porté par le ministère des Télécommunications et qu'en réalité dans la pratique, c'est pas trop le cas. Vous avez comme pour souvenir de janvier en février 2017 quand Internet a été coupé dans le sud-ouest alors que s'est développé là-bas ce qu'on appelait la Silicon Mountain qui était comme une sorte de rassemblement de tous ces grands développeurs et tous ces grands codeurs qui faisaient carrément des chiffres d'affaires à partir des États-Unis, mais étant au Cameroun. Et aujourd'hui, c'est en décrépitude, ça n'existe presque plus jamais. Et vous avez l'impression qu'on ne fait rien pour y arriver parce que l'économie numérique est faite de telle sorte que les citoyens devraient davantage tirer profit de cette économie numérique pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous avez autant de guichets et c'est pour ça que dans le cadre, par exemple, du gouvernement ouvert dont nous sommes les initiateurs au Cameroun, nous plaidons pour qu'Internet soit désormais au centre des préoccupations ou des priorités du gouvernement parce que c'est ça qui devrait permettre d'améliorer la gouvernance. On ne devrait plus avoir des personnes qui partent de Maroua pour venir à Yaoundé suivre un dossier alors qu'ils pouvaient simplement, à partir de la plateforme du ministère de la fonction publique, suivre leur dossier et savoir exactement à quel point c'est. On devrait pouvoir développer des activités de participation citoyenne aussi bien au niveau local qu'au niveau national sur des plateformes. J'ai été très ébahi lors de ma visite au Sénat français, de voir que le Sénat français a lui seul a deux sites web, un site web institutionnel et un site web de l'Open Data. Et dans le site de l'Open Data, les citoyens ont la possibilité de questionner le travail du Sénat, même à l'Assemblée nationale de la France où on a été reçu. C'était vraiment fabuleux de voir que tout cela avance. Et désormais, dans ces pays, on est passé du gouvernement ouvert pour les États ouverts. Et on parle même davantage de parlement ouvert, où vous avez par exemple le député des Français à l'étranger qui de temps en temps organise des rencontres qui se passent essentiellement en ligne où des citoyens peuvent savoir ce qu'elle fait pour eux parce qu'elle les représente à l'Assemblée nationale. Mais au Cameroun, il faudrait peut-être féliciter le site de l'Assemblée nationale qui essaye de faire dans l'open data parce que vous pouvez y aller et voir un peu les députés de la mandature, des différents mandatures. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est que ces données soient désagrégées. C'est le cas du ministère de la Santé où il y a une absence de transparence et de visibilité de la gestion de la COVID, où vous avez un ministre qui passe le temps à tweeter. Oui, on veut que Malachi tweete, mais on veut qu'il mette à la disposition des citoyens des données désagrégées qui permet justement de suivre de bout en bout comment cette gestion est faite. Le cas des finances, par exemple, aucun citoyen n'est capable de vous dire combien l'État camerounais met dans la lutte du corona, encore moins quel est l'apport des partenaires au développement dans le cadre de la COVID. Jusqu'à présent, le seul site web qui vous renseigne, à quelques exceptions près, c'est le site de Publish What You Fund, qui vous permet par exemple d'aller voir ce que l'ensemble des bailleurs mettent dans le cadre de la lutte contre le corona au Cameroun. Donc, il y a cette web gouvernance ou alors l'utilisation de la Civic Tech pour justement améliorer la gouvernance qui s'oppose. Malgré le fait que le Cameroun reste l'un des pays champions en matière technologique et en matière d'Internet, mais il y a peut-être le côté structuration de tout cela qu'il faudrait mettre en exergue.
Paul Joël, depuis un an, avec l'organisme Defy Hate Now, tu animes des sessions de formation des acteurs, des médias et des blogueurs camerounais dans la lutte contre la désinformation et les discours de haine sur Internet. Peux-tu expliquer aux auditeurs de ce podcast comment se met en place un processus de désinformation sur Internet?
Alors, le processus de désinformation, pour le cas de l'étude que Facebook nous a commandée, qui nous a permis de mieux comprendre tout ce phénomène sur la plateforme, c'est que c'est fait de façon ordonnée, de façon commandée, de façon soutenue et de façon coordonnée. Vous vous rappelez, en juillet, Jeune Afrique publiait une information selon laquelle le régime de Yaoundé a une cyberarmée sur Facebook et que ces personnes, par exemple, sont des jeunes sortis des universités qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont employés par le régime du Cameroun autrement pour justement lutter contre ce qu'ils appellent l'opposition sur la toile. En réalité, c'est tout ce phénomène qui vous permet de comprendre que ce sont des gens très organisés qui sont dans ce qu'un politicien a appelé un cabinet noir, qui fabrique à la fois des discours haineux, parce qu'il faut comprendre en réalité qu'il y a des cas où les discours haineux et les fausses nouvelles vont de pair. C'est-à-dire un discours haineux peut forcément engendrer une fausse nouvelle. Dit par exemple que ce sont les boulots qui ont gâté le pays. C'est en réalité à la fois un discours haineux et une fausse nouvelle, parce que vous ne pouvez pas prouver, et en réalité vous êtes en train de vous attaquer à un groupe ethnique dont l'ensemble des membres ne peuvent pas attester de ce que vous dites, parce qu'on ne porte pas au même niveau la responsabilité des accusations que vous leur portez. Et en termes de fausses nouvelles, ça va de soi. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des cabinets noirs qui fabriquent des fausses nouvelles ou des discours haineux. Il y a qui sont chargés de les porter sur la toile, et il y a qui sont ce qu'on appelle des influenceurs, qui sont chargés de les partager et que ça devienne viral, et donc ça débouche sur tout le tollé qu'on peut voir de temps en temps sur la toile. Et on a remarqué que 80% des comptes ou des profils qui portaient cela étaient des faux profils et des faux comptes qui sont animés parfois par des personnes très bien connues de la scène publique camerounaise. C'est dit ô combien c'est à la fois une affaire qui tend à s'institutionnaliser si toutes les parties prenantes, dont les acteurs des questions de cohésion sociale, des questions de liberté d'expression et des questions de liberté d'accès à l'information, ne se mettent pas ensemble. Parce que il faudrait pas qu'on perde de vue que ces plateformes sont créées pour servir au moins trois grandes choses, à savoir les questions des libertés d'association face à l'espace civique physique qui se restreint avec les protecteurs des libertés publiques qui les matent de plus en plus, et dont les citoyens ont tendance à aller vers la toile pour facilement s'exprimer. Et cela débouche sur ce qu'on voit actuellement. Mais on a tout au moins constaté qu'il y a deux grands contextes qui cristallisent là. C'est d'abord la crise post-électorale. C'est d'abord la crise post-électorale d'octobre 2018 qui, comme vous le savez, a débouché sur ce qu'on appelait au sein du RMS le hold-up électoral, avec une réponse presque sanglante en face. Et on constate que de plus en plus, ces affrontements sur la ont tendance à se déporter sur l'espace physique. Voyez ces acteurs politiques qui sont de temps en temps agressés par des inconnus et des enquêtes qui sont ouvertes, mais jamais les résultats ne sont révélés aux yeux du public pour effectivement dire à l'opinion si c'est un règlement de compte ou alors si ce sont des agressions, comme les agressions qu'on a un peu partout, ce qui n'est pas le cas. Et donc vous avez tout cela, et en face vous avez des gens de l'opposition qui ont des pseudonymes sur la toile qui essaient de jeter du discrédit à la fois sur le pouvoir en faisant croire en réalité que c'est une ethnie qui prend en otage le pays, alors qu'en réalité au sein de l'appareil de l'État vous avez plusieurs ethnies, vous avez plusieurs intelligences et vous avez plusieurs éducations. Donc c'est autant de phénomènes qui sont savamment entretenus, bien concoctés et jetés comme étant des ballons d'essai pour voir la réaction de l'opinion et préparer les prochains essais. Donc vous avez à côté le contexte de la crise post-électorale, mais vous avez également dans le même volet le contexte de la crise anglophone, qui n'est pas tout à fait différent en termes de conséquences sur la toile, en termes de création des discours haineux. Vous vous rappelez du Moja Moja qui était sorti par exemple en Boya, demandant à tous les Bamilékés de rentrer chez eux. Vous avez en même temps ces termes, ce glossaire que nous avons essayé de concocter. Vous avez des mots comme sardina, comme tontina, comme graphis, comme black lake, qui sont en réalité des mots qui sont créés pour cristalliser un certain nombre d'attention sur la toile. Et ça crée donc tout ce que vous voyez. Désormais, quand vous êtes sur la toile, vous parlez, vous avez une position, vous êtes classé comme étant dans l'un ou dans l'autre camp. Et cela, en réalité, prouve tout le malaise que la société camerounaise commence à avoir.
Est-ce que tu as le sentiment que les actions des organismes qui luttent contre ces fléaux de désinformation et de discours de haine sur Internet portent leurs fruits?
Je veux dire, c'est très difficile de mesurer, mais le chemin est encore long, mais pour autant c'est fastidieux, mais le combat vaut la peine d'être mené au nom de l'équité sociale. C'est pas encore trop ce que nous voulons, parce qu'en réalité on a des acteurs qui n'aident pas beaucoup. Le cas des pouvoirs publics, par exemple, qui font passer des textes à l'Assemblée nationale et ne peuvent pas les implémenter. Vous vous rappelez du cas de juillet 2019 où il y a eu un amendement sur le code pénal qui est passé pour pouvoir rendre un peu plus dur le tribalisme, c'est-à-dire la punition contre le tribalisme, mais sous réserve des données qu'on pourrait collecter auprès des juridictions. Il me semble qu'il n'y a pas assez de personnes qui payent pour la propagation du tribalisme ou alors des discours haineux ou encore des fausses nouvelles sur la toile, parce qu'on n'entend pas et on voit toutes ces personnes. Il n'y a que Facebook qui essaye, grâce au signalement des internautes, de suspendre ces personnes. Mais ça ne suffit pas, parce qu'en réalité, face à ce qu'on appelle les standards de la communauté développés par Facebook et tous les automatismes que Facebook a développés derrière ses algorithmes, vous avez quand même des gens encore très intelligents qui, pour contourner les standards de la communauté, utilisent des expressions qui ne sont pas reconnues par les algorithmes de Facebook, mais reconnues par l'ensemble des internautes. Par exemple, quand je dis « Sardina », c'est une insulte qui est sur la plateforme, mais Facebook vous dira que non, ça ne viole pas les standards de la communauté. Mais l'ensemble de la communauté camerounaise connaît au moins que quand c'est un mot qui est prononcé comme Sardina, ça tourne en dérision une catégorie de personnes, un groupe d'acteurs politiques ou ethniques. Donc, c'est autant de choses pour dire que malgré tout ce combat, il y a encore des freins à cela. Mais il faudrait davantage appeler, par exemple, Facebook à revoir sa politique des contenus, peut-être orientée vers l'ensemble des pays qui ont le même système gouvernant. Parce que quand vous prenez les pays qui ont les systèmes, qui ont les mêmes systèmes gouvernants, c'est-à-dire des présidents qui ont mis longtemps au pouvoir, c'est-à-dire des pays où vous avez un groupe ethnique qui tient l'appareil de l'État, vous allez remarquer que ces pays ont presque tous les mêmes problèmes. Le cas de l'Afrique centrale, par exemple, les problèmes que vous voyez au Cameroun sont les mêmes problèmes au Gabon, au Congo, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on demande ou on propose à Facebook, c'est de pouvoir adapter sa politique de contenu par rapport aux régions, aux cultures ou aux pays. Parce que jusqu'à présent, les standards de la communauté de Facebook sont une sorte de standard boussole qui est par exemple beaucoup adossé sur une vision mondiale. Mais par contre, quand on injure un Arménien, Facebook reconnaît vite et sanctionne. Mais si on injure un Bamileke, Facebook ne va pas reconnaître, parce qu'en réalité, c'est un mot qui n'est pas pris en compte par l'algorithme de Facebook. Vous avez donc de l'autre côté ces gouvernants qui sanctionnent des gens à cause de leurs intérêts. Et quand je vous prends le cas de Paul Chouta, par exemple, qui est en prison, qui, après tout ce qu'on peut lui reprocher, à utiliser Internet pour faire un boulot, vous avez des Paul Chouta comme ça qui sont en liberté et qui continuent justement à meuter le public sur la toile. Donc, cette affaire du deux poids, deux mesures face au texte qu'on applique à tête chercheuse pose un sérieux problème. Et c'est donc tout cela qui peut se refléter sur la décrépitude qui est en train de frapper la société camerounaise en ce moment.
Et toi, est-ce que tu as l'impression que les pouvoirs publics camerounais vous soutiennent dans ce travail que vous faites de lutte contre la désinformation, des discours haineux sur Internet?
Non, il n'est pas question de nous soutenir, mais il est question que chacun joue son rôle. Nous, en tant que les alerteurs de la société, et eux, les pouvoirs publics, dont le gouvernement, en tant que ceux qui sont chargés d'appliquer ce que les textes disent. C'est-à-dire, vous avez un ministre des télécommunications qui ne vous rappelle que des dispositions de la cybersécurité et consorts, mais on veut que ce ministère aille un peu plus loin que ça. Vous avez l'Antique, par exemple, qui ne communique pas assez sur son travail, et ça pose un sérieux problème, parce que la sensibilisation et la communication peuvent aider justement à juguler ce phénomène. Ça ne sert à rien de réunir 400 personnes à Yaoundé pour leur parler de la cybercriminalité alors que demain on ne pourra pas agir. Ça ne sert à rien de faire des posts sur des dispositions du code pénal quant à nos fréquentations sur Internet alors que demain on ne pourra pas agir. Ce qu'on essaye donc de demander au pouvoir public, au lieu de nous soutenir, c'est d'arrimer les textes du Cameroun au nouvel ordre mondial. Ailleurs, par exemple, on a déjà intégré des questions comme les questions d'accès à Internet. Au Cameroun, ça n'existe pas. Les questions sur les données personnelles, par exemple. C'est-à-dire, chacun peut se placer sur la toile et balancer le passeport de n'importe qui et que ça ne dise rien à personne. Pourtant, ce sont des données personnelles et ces personnes sont passibles des poursuites judiciaires. Mais voyez, quand on va prendre une affaire comme ça au tribunal, vous risquerez d'avoir un juge qui va se déclarer incompétent parce qu'en réalité, il n'y a pas un texte qui est adapté aux questions, par exemple, d'Internet. Et on est encore au niveau du code pénal qui en réalité est un code pénal qui est calqué sur le modèle français qui date de près de 100 ans. Et ça pose un sérieux problème parce que ça ne suit pas l'évolution du temps. Donc, on ne veut pas que les pouvoirs publics nous appuient, mais on veut qu'en sensibilisant les pouvoirs publics, que les pouvoirs publics jouent leur rôle essentiel qui est celui de réguler l'espace public.
On va sortir de cet entretien. Est-ce que tu as un mot à dire pour terminer? Comment est-ce que tu conclues?
Ben, un mot à dire, c'est simplement pour éviter les blogueurs, les journalistes, les activistes et les membres de la société civile à jouer davantage leur rôle pour essayer de lutter contre le phénomène des discours haineux qui est en train de s'emparer de la toile et qui a, pour autant, il faut le dire, une grave conséquence sur la cohésion nationale. Donc, la lutte contre les fausses nouvelles, contre la désinformation, contre les discours haineux devrait être une lutte multi-acteurs, devrait réunir tous les acteurs du secteur de l'information et du secteur de l'accès à l'information. Donc, nous interpellons davantage ces différents acteurs à se mettre ensemble pour voir comment travailler et juguler ce phénomène qui n'est pas propre au Cameroun. La désinformation est un phénomène devenu mondial. C'est pour ça que de plus en plus, les institutions, et les bailleurs, les amis au développement essayent d'orienter leurs aides ou leur soutien en direction de lutte contre les discours haineux et contre la désinformation.
Merci beaucoup, Paul Joël, d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Et merci, comme toujours, tu nous as vraiment édifié sur les questions de data journalisme, de lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation sur Internet.
Merci beaucoup, René.
C'est tout pour ce deuxième épisode de N.com. Paul Joël reste actif avec son association Adici, que vous pouvez retrouver à l'adresse www.adicicameroun.org. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le blog ou sur mes réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur du numérique et des médias au Cameroun. À bientôt!